La dernière fois que nous avons partagé ensemble ce moment de culte, nous avions parlé de l'histoire du déluge, et en particulier de ce signe que Dieu avait donné, l'arc-en-ciel, un signe que Dieu avait donné dans un temps tout à fait particulier. Vous vous souvenez, l'histoire du déluge, qui est un fait réel, qui s'est produit dans l'histoire, nous est rapporté dans les Écritures. Mais ce fait contient de nombreux éléments qui en font en réalité pratiquement une prophétie. L'histoire de Noé, la fin d'un monde, le début d'un nouveau monde, et l'histoire de cet homme qui va traverser le jugement de Dieu, porte nos regards vers la fin des temps. La fin des temps où justement Dieu va juger le monde et où Dieu va ouvrir, comme il le promet dans l'Apocalypse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour le reste fidèle. Ceux qui se seront attachés à la parole de Dieu, ceux qui auront Jésus comme leur sauveur personnel, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ainsi, l'histoire du déluge est une histoire typologique, une histoire prophétique qui nous parle de ce moment où les élus vont se trouver un jour devant le trône de Dieu, prêts à entrer dans la nouvelle terre. Noé, sortant de l'arche, va faire, nous dit le texte, un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'action de grâce. Et Dieu va répondre à cette initiative de Noé en donnant ce signe de l'arc-en-ciel. Un signe particulier, un signe que l'on va retrouver au travers de l'histoire, un signe que Dieu nous montre encore régulièrement, mais un signe qui a une signification particulière. Et j'aimerais aujourd'hui prendre la suite de ce que nous avons vu la dernière fois pour essayer de trouver dans ce signe que Jésus nous a donné le sens, la signification véritable pour nous aujourd'hui. Il y avait dans l'histoire du déluge un élément sur lequel j'aimerais revenir avant de continuer, un élément particulièrement intéressant, ce sont les dates qui sont données dans l'histoire du déluge. Vous vous souvenez qu'une date était donnée concernant le moment où l'arche allait s'arrêter sur le mont Ararat. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 8 et au verset 4, il nous était dit, le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. C'est pour Noé la fin de son voyage, il est arrivé, et maintenant, peu à peu, l'eau va redescendre et les choses vont progressivement retourner à la normale. Noé va maintenant arriver dans un monde nouveau. Seulement, cette indication est importante. Le septième mois, lorsqu'on le reprend, les célébrations d'Israël, les sept fêtes qui sont données dans les Écritures, on se rend compte que cette date, le moment où l'arche s'arrête sur le mont Ararat, se trouve justement entre la fin de la fête des expiations et le début de la fête des trompettes. Et ce moment est particulièrement significatif. Parce que vous en souvenez, la fête des expiations, c'est un type du jugement de Dieu. Et en effet, le jugement de Dieu vient d'avoir lieu sur la terre, le déluge. Et puis, la fête des trompettes, c'est cette fête qui nous est rapportée, entre autres, dans Lévitique, chapitre 23, où il nous est dit que cette célébration est une fête particulièrement joyeuse parce qu'elle est la commémoration de ce moment où le peuple est sorti du désert pour entrer dans la terre promise. C'est exactement ce que Noé est en train de vivre. Il vient de voir le jugement de Dieu dans le monde par le déluge, et il s'apprête maintenant à rentrer dans une terre nouvelle. Et lorsque Noé sera sur cette terre nouvelle, il va offrir à Dieu un sacrifice. Et c'est à ce moment-là que Dieu va signer de l'arc-en-ciel sa réponse à Noé. Dans une alliance de salut, une alliance dans laquelle il promet de ne plus jamais détruire la terre de cette manière-là. L'histoire de Noé et du déluge, loin d'être un conte de fées pour endormir les enfants le soir, revêt véritablement une dimension prophétique pour ceux qui attendent le retour de Jésus. Noé et l'adoration qu'il présente à Dieu ayant maintenant les pieds sur la terre ferme à nouveau, est une image de cette adoration que les sauvés vont rendre à Dieu lorsqu'ils seront sur la nouvelle terre, lorsqu'ils seront même devant le trône de Dieu pour la première fois, lorsque, pour la première fois, ils pourront contempler Dieu dans sa gloire. Nous avons de cela une indication dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, nous lirons à partir du verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. » Nous retrouvons ici les sauvés devant le trône de Dieu. Et le texte nous dit « ils le servent », qui est un mot en réalité religieux pour dire « ils l'adorent ». Ils lui apportent leur reconnaissance, leur action de grâce. Et la dernière fois, nous avions remarqué que l'action de grâce, les remerciements, c'est en réalité une forme d'adoration. Maintenant, ce spectacle-là, se trouver devant le trône de Dieu. C'est un spectacle que certains prophètes ont eu la grâce de pouvoir voir avant l'heure. Jean, dans le livre de la Révélation, ici se trouve devant cette scène du trône. Mais Ézéchiel aussi a vu cette scène du trône. Et je vous propose de regarder dans le livre du prophète Ézéchiel comment il décrit ce qu'il voit. Ézéchiel chapitre 1er. Au verset 26, il est écrit ceci. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, et au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Il nous donne ici une indication intéressante. Cet arc-en-ciel qui entoure le trône de Dieu, dit Ézéchiel, c'est une image de la gloire de l'Éternel. Revenez un instant dans le livre de l'Apocalypse. La même description nous est faite par Jean dans l'Apocalypse au chapitre 4. Dans les mots de l'apôtre Jean, nous voyons le même spectacle. Apocalypse chapitre 4. Au verset 2, il est dit ceci. Ainsi je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Les prophètes ont eu cette grâce de voir le trône de Dieu environné de l'arc-en-ciel. Ce symbole, cette image de la gloire de Dieu, nous dit Ézéchiel. Un spectacle saisissant parce que c'est le spectacle qui s'offrira aux yeux de ceux qui, entrant dans le royaume des cieux, seront présents devant le trône de Dieu. Ce spectacle nous est décrit à l'avance pour qu'à l'avance nous puissions nous-mêmes nous y préparer, rencontrer Dieu. L'arc-en-ciel, signe de cette alliance, frappe les yeux de ceux qui voient ce spectacle parce que dans ce signe, Dieu est en train de dire qu'il est ce Dieu fidèle, capable de nous sauver. Et vous remarquez, cette gloire de Dieu s'exprimait par une lumière éclatante. Et cela n'est pas surprenant parce que la création a commencé par la lumière. L'entrée dans le monde nouveau, sur la nouvelle terre, sera caractérisée aussi par la lumière de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, se trouve au chapitre 7, de nouveau, cette description particulière. Elle est dans le même chapitre où nous étions tout à l'heure, quelques versets plus haut. Apocalypse chapitre 7. Nous retrouvons là encore une description semblable. Apocalypse chapitre 7. Au verset 9, il nous est dit ceci. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans la main. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » C'est la description de ces élus qui se présentent devant le trône, comme Noé se présente devant Dieu en sortant du déluge et lui apporte l'expression de leur adoration, de leur reconnaissance, cette action de grâce. Mais j'aimerais regarder un petit peu plus loin avec vous ce que signifie cette gloire de Dieu. Jésus disait à ses disciples, « Je suis la lumière du monde. » Et lorsque Jean, qui a écrit l'Apocalypse, écrit aussi son évangile, il va commencer par ce même thème de la lumière. Il va présenter Jésus comme étant la lumière, cette lumière d'ailleurs que son peuple ne veut pas recevoir. Mais l'évangile de Jean, qui reprend le thème de la création, au commencement, présente d'abord Dieu comme étant la lumière du monde. Il n'est pas étonnant de voir de nouveau ce thème de la lumière frapper les yeux de ceux qui, pour la première fois, contemplent le trône de Dieu. Mais cette lumière, elle se décompose en plusieurs couleurs. Cette lumière que l'on voit dans l'arc-en-ciel se décompose dans le rouge, dans l'orange, dans le jaune, dans le vert, dans le bleu, dans le mauve, dans le violet. Différentes facettes de cette lumière, différentes facettes aussi de cette gloire de Dieu. Essayez, par exemple, une fois, de vous approcher d'un arc-en-ciel. J'ai déjà essayé. Vous allez vous approcher de l'arc-en-ciel, mais vous n'allez jamais réussir à savoir où il est. Vous vous en approchez, puis tout d'un coup, il disparaît parce qu'il est dans votre dos. Vous revenez en arrière pour vous en approcher, et il est ailleurs. Cette image incroyable représente véritablement bien cette sainteté, cette gloire de Dieu, dont nous ne pouvons pas nous approcher. Nous ne pouvons jamais que la contempler de loin et l'admirer dans sa beauté. Toutes sortes de couleurs. En réalité, c'est en apprenant à connaître toutes les facettes de la gloire et du caractère de Dieu que nous tombons en admiration devant cet être incomparable qui a pourvu à notre salut en Jésus-Christ. C'est de là que jaillit dans notre cœur cette reconnaissance, cette adoration, dont nous aimerions justement connaître tous les secrets. Comment adorer Dieu? Et j'aimerais regarder dans les Écritures les indications qui nous sont données pour voir les différentes couleurs du caractère de Dieu. Le psaume 111 que nous avons lu tout à l'heure contient de nombreux qualificatifs du caractère de Dieu. Et parmi les différents qualificatifs qui sont organisés dans ce psaume 111, il y en a 7 en particulier que j'aimerais relever. Certains sont donnés en couple, comme s'il s'agissait d'une seule unité. Et d'ailleurs, dans d'autres endroits des Écritures, nous les retrouvons sous la même forme, par couple. Mais j'aimerais les reprendre, les 7 principaux de ce psaume, comme pour voir, si vous le voulez, les différentes couleurs du caractère de Dieu. Psaume 111, au verset 2, il nous est dit « Les œuvres de l'Éternel sont grandes. » En effet, il ne nous est pas possible de voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Alors, nous sommes, j'allais dire, condamnés à ne voir Dieu qu'au travers de ses œuvres. Et le psalmiste commence par dire que ses œuvres sont grandes, la grandeur de Dieu. Et lorsque nous pensons à la grandeur de Dieu, nous pouvons penser à l'infini de l'espace, à ces étoiles inaccessibles. comme Dieu d'ailleurs, qui est aussi inaccessible. J'aimerais prendre pour chacune des caractéristiques que nous allons trouver un ou deux passages dans les Écritures. Nous pourrions en prendre de nombreux autres, mais permettez que nous en lisions juste un ou deux qui soulignent certains aspects de ce caractère de Dieu. Dans le psaume 147, au verset 5, il est parlé encore de la grandeur de Dieu. Psaume 147, verset 5, il est dit ceci. « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. » Les choses les plus grandes, les plus admirables, les plus impressionnantes de la création sont présentées ici comme caractéristiques de la grandeur de Dieu. Le psaume 19 va encore souligner cette grandeur de Dieu. Tournez quelques pages, si vous voulez, dans le psaume 19. Au verset 2 se trouve un texte que vous connaissez bien et qui traduit cette notion de la grandeur de Dieu, une grandeur insaisissable pour nous qui sommes limités dans notre vie. Psaume 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Nos regards se perdent dans l'infini du ciel et pourtant, il n'est pas l'infini pour Dieu qui est plus grand encore. La grandeur de Dieu. Et je me pose la question, est-ce que nous avons eu l'occasion dans notre expérience personnelle avec Dieu de goûter à la grandeur de Dieu, la grandeur, l'immensité de Dieu, l'infini de Dieu? Dans le même psaume 147 où nous étions tout à l'heure se trouve ce texte où il est dit « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » Un Dieu qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, un Dieu qui n'est limité par rien. Est-ce que nous avons dans notre expérience personnelle réussi à ressentir la grandeur de Dieu manifestée à notre égard? Car cette grandeur, il la met aussi à la disposition de chacun d'entre nous. Dans le psaume 111, au verset 3, se trouve une autre couleur du caractère de Dieu au travers de ses œuvres. Il est dit « Son œuvre n'est que splendeur et magnificence ». La splendeur de Dieu. Lorsque nous pensons à la splendeur de Dieu, nous pensons à ce qu'il y a de plus éclatant dans l'univers, pour notre univers en tout cas, c'est le soleil. Le soleil et ces panoramas baignés du soleil que nous ne pouvons même pas regarder en face. Dans le livre de Job, au chapitre 37, au verset 21, il est écrit ceci. Job 37, versets 21 et 22. On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Dans ce texte, le mot majesté est exactement le même que celui que nous avons traduit dans le psaume 111 par splendeur. C'est le même mot. Et le psalmiste s'exclame, oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Et il la compare au soleil, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant dans l'univers que nous connaissons. Et dans le psaume 104, au verset 1, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » Le mot « éclat » qui est employé ici dans le psaume 104 est encore une fois le même mot qui est employé dans le psaume 111 et traduit par « splendeur ». C'est en effet une dimension du caractère de Dieu qui nous échappe. Parce que autant il est grand, aussi grande est sa splendeur, aussi grande est sa puissance, aussi grande est sa force. Et nous n'avons aucune idée, parce que nous n'y avons encore jamais été confrontés tel que nous le serons en entrant dans le royaume des cieux. Mais je me pose quand même la question, est-ce que dans notre expérience personnelle de marche avec lui, est-ce que nous avons été confrontés un jour à une partie de cette gloire de Dieu qui se manifeste à notre égard? Est-ce que nous avons été confrontés à l'éclat de sa magnificence, oh, juste un petit peu, pour être devant lui en adoration et en admiration? Je reviens au psaume 111 pour trouver au verset 3 une autre dimension, une autre couleur du caractère de Dieu. Psaume 111, verset 3 dit, en parlant de l'Éternel, « Sa justice subsiste à jamais. » La justice de Dieu. Nous y pensons en l'associant à la pureté de Dieu, en l'associant au feu. Parce que le feu, c'est ce que Dieu utilise, entre autres, pour détruire, pour purifier et par conséquent, pour assurer le salut. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 59, au verset 16 et 17, il est encore question de cette justice de Dieu. Ésaïe, chapitre 59, verset 16, dit ceci. Dieu cherche un homme, et il continue en disant, « Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. » La justice de Dieu est en relation directe avec le salut qu'il nous donne. Parce que c'est justement cette justice qu'il veut établir en nous, par laquelle nous sommes sauvés. C'est cette justice qu'il veut enraciner dans notre vie. Et pour reprendre une autre expression biblique, c'est cette justice dont il veut nous couvrir, comme d'un manteau. Et je me pose encore la même question, est-ce que dans notre cheminement avec lui, est-ce que nous avons goûté, senti cette pureté infinie de Dieu à laquelle il nous appelle? Est-ce que nous avons joui de cette justice qu'il nous donne, bien que nous ne la méritions pas, mais qu'il nous accorde grâce à Jésus, le seul juste? Est-ce que nous avons reçu cette justice qu'il veut nous donner? En revenant dans le psaume 111, j'aimerais souligner la quatrième couleur du caractère de Dieu. Au verset 4, il est dit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. » Lorsque nous pensons à la miséricorde de Dieu, nous pensons inévitablement à Jésus qui en est l'expression la plus parfaite. Jésus est l'expression parfaite de cette miséricorde, parce que c'est par lui que nous recevons justement le pardon, le salut. J'aimerais prendre un texte particulier dans le livre du prophète Néhémie. Néhémie, chapitre 9. Dans le livre du prophète Néhémie, au chapitre 9, ce même couple de mots est encore utilisé. Néhémie, chapitre 9, verset 17. Il est écrit ceci. « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en métal fondu. » Ce Dieu miséricordieux et compatissant, c'est le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, même quand eux l'abandonnent. Et c'est ici ce que souligne Néhémie. Dieu ne les avait pas abandonnés, quand bien même ils étaient partis pour adorer un autre Dieu. Ce Dieu miséricordieux et compatissant, c'est ce Dieu dont nous sommes invités à faire l'expérience en apprenant à connaître Jésus, notre Sauveur. Vous vous souvenez, dans le psaume 103 que nous connaissons bien, au verset 8, il est dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. » C'est le Dieu qui est capable de pardonner quand nous n'en sommes pas dignes. C'est ce Dieu qui s'exprime en Jésus-Christ d'une manière incroyable et qui offre le salut à des pécheurs comme vous et moi. Et je me pose encore cette question. Avons-nous fait l'expérience de la miséricorde, de la patience, de la compassion de Dieu à notre égard? Je reviens au psaume 111. Au verset 6, il y a là encore une autre couleur du caractère de Dieu. Psaume 111, verset 6, il est dit « Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. La puissance de Dieu. Comment se manifeste la puissance de Dieu? Par ses actions, par ses miracles, par ce qu'il fait en faveur de son peuple. La puissance de Dieu. Nous la trouvons aussi dans la nature. Il y a des choses qui nous frappent parce qu'elles sont tellement hors de notre contrôle que nous les associons volontiers à la puissance de Dieu. La puissance d'un volcan, la force d'attraction des astres. Ces éléments qui nous semblent tellement incontrôlables, tellement au-dessus de ce que nous sommes capables de concevoir. Mais j'aimerais lire un ou deux passages dans le psaume 65, au verset 7. Il est parlé là encore de la puissance de Dieu. Psaume 65, au verset 7, il est écrit ceci. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Dieu est puissant par ses actions, puissant par ses délivrances, puissant par ses miracles. Et j'aimerais simplement citer cet autre passage qui se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 17 et au verset 36, où il est dit « Mais vous craindrez l'Éternel » qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est lui que vous devez adorer, c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. La puissance de Dieu se manifeste par ce qu'il a fait pour délivrer ses enfants. C'est là que se trouve la puissance de Dieu. Alors encore une fois, se pose la question, avons-nous eu l'occasion d'être les témoins de la puissance de Dieu dans notre existence? Avons-nous pu être les témoins de la délivrance de Dieu, des miracles qu'il a accomplis pour nous sauver? Et je sais que si l'on pouvait donner la parole à beaucoup d'entre vous, vous pourriez témoigner de la puissance que Dieu a exercée dans votre vie pour vous délivrer et pour vous amener à recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. Je reviens au psaume 111. Pour découvrir la sixième couleur du caractère de Dieu, elle se trouve au verset 7. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. La fidélité de Dieu. Ce mot fidélité est traduit dans d'autres passages, dont ceux que nous allons lire, par une notion que nous comprenons et, en y réfléchissant, le lien en fait est évident. Regardez par exemple dans le psaume 51. Psaume 51, le verset 8, dit ceci. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » C'est ici le mot « vérité » qui sert de traduction au même mot qui est employé dans le psaume 111 pour parler de fidélité. Fidélité, vérité. Et effectivement, cette vérité qui est en Dieu s'exprime par sa fidélité dans l'alliance dont l'arc-en-ciel est le signe. Dans le psaume 119, au verset 142, où nous retrouvons ce passage, il est dit « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. » C'est là que s'exprime la fidélité de Dieu dans ce qui est vrai. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que nous avons eu l'occasion dans notre vie personnelle de tester, de témoigner de la fidélité de Dieu à notre égard? Cette fidélité s'exprime dans la nature, elle s'exprime par cette promesse faite d'ailleurs à Noé que les saisons n'allaient jamais s'arrêter, que le cycle de la nature allait demeurer jusqu'à la fin. Pensez à ce que fait le semeur. Il va mettre la semence dans son champ. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. Le reste, c'est la fidélité de Dieu qui le fait. C'est la fidélité de Dieu qui fait croître. Avons-nous eu l'occasion de tester cette fidélité de Dieu, cette vérité de Dieu dans nos vies? Dans le psaume 111, j'aimerais relever la septième couleur du caractère de Dieu au verset 9. Il est dit « Son nom est saint » est redoutable. La sainteté de Dieu. sa sainteté qui le rend incomparable. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 20 et au verset 26, se trouve un passage qui est un véritable défi par rapport à la sainteté de Dieu. Lévitique, chapitre 20, le verset 26. Il est écrit ceci. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. » Il y a dans cette notion de sainteté la notion de mise à part, de séparer du reste, pour appartenir d'une façon particulière à Dieu. Dieu est saint parce qu'il n'y en a pas d'autre semblable, mais Dieu veut faire aussi de chacun d'entre nous des saints pour son royaume, parce que nous sommes uniques à ses yeux. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 23, au verset 14, se trouve cette parole qui nous oriente encore vers une dimension de la sainteté de Dieu, où il est dit « Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger, pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. » Mis à part pour être pur pour Dieu. Un programme extraordinaire dont Dieu seul a la clé. Et je me pose encore la question, avons-nous fait l'expérience d'être confrontés à la sainteté de Dieu? Cette sainteté qui nous appelle à être mise à part pour l'instant dans l'Église, dans l'Alliance finalement. Avons-nous été touchés par la sainteté, par la pureté de Dieu, comme étant l'objectif qu'il met dans notre cœur et que nous sommes invités à atteindre par sa grâce? La sainteté de Dieu. Maintenant, en revenant dans le psaume 111, nous découvrons quelque chose de particulier. Nous avons vu au travers du psaume 111 sept couleurs, si je peux m'exprimer ainsi, du caractère de Dieu, l'arc-en-ciel de sa gloire. Et remarquez maintenant comment se termine le psaume 111. C'est la dernière phrase du verset 10 où il est dit « Sa gloire subsiste à jamais ». C'est, si vous le permettez, le psaume de l'arc-en-ciel où se trouvent déclinées là les différentes couleurs de son caractère comme pour nous dire finalement « Vous avez vu là la gloire de Dieu ». Le psaume 111, le psaume de l'arc-en-ciel. Vous vous souvenez, un jour, Moïse a dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu lui a répondu en lui disant, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Il est curieux de voir que Dieu n'a pas répondu à la question de Moïse telle qu'il lui avait posée. Parce que Moïse avait besoin de comprendre que la gloire de Dieu s'exprime dans sa bonté. Et le mot qui est employé ici pour la bonté pourrait être traduit, en restant fidèle à son sens, par « ce que j'ai de meilleur ». Dieu a répondu à Moïse en lui disant « je vais te montrer ce qu'il y a de mieux en moi ». Et c'est ainsi qu'en recherchant ce qu'il y a de meilleur, nous retombons inévitablement sur Jésus notre Sauveur. N'est-il pas appelé dans les Écritures l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix? Nous avons commencé avec le livre de l'Apocalypse. Alors nous allons terminer avec le livre de l'Apocalypse et je vous propose d'y retourner en terminant au chapitre 7, le chapitre où nous lisions en commençant tout à l'heure. J'aimerais terminer le passage que nous avons commencé. Apocalypse, chapitre 7. Nous nous sommes arrêtés au verset 9. J'aimerais lire avec vous le verset 10, 11 et 12. Apocalypse, chapitre 7, verset 10 dit ceci. Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.